Une réunion consacrée aux enjeux de santé mentale durant la pandémie, aujourd'hui à Matignon, autour de Jean Castex et Olivier Véran. Alors que les hospitalisations des moins de 15 ans pour motifs psychiatriques sont en hausse de 80% selon la pédopsychiatre Angèle Consoli, invitée ce matin de nos confrères de France Inter.
France Info. La santé mentale des Français au cœur d'une réunion à Matignon en fin d'après-midi. Bonjour professeur Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de psychiatrie d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris, professeur à l'université Diderot. Vous signez notamment les 4 saisons de la bonne humeur aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci d'être avec nous sur France Info. La santé mentale, c'est une problématique urgente, cette santé mentale des Français en général. Il faut s'en saisir au sommet de l'État.
Bien sûr. Alors moi, j'ai l'honneur de présider une commission, qui est la Commission nationale de psychiatrie, qui réfléchit à cette question de l'offre de soins, à la question de la prévention. Moi, je vois 3 situations émerger. Une nouvelle population d'adultes jeunes ou d'adolescents qui sont en difficulté, difficultés dans leurs études, difficultés pour l'accès au travail. 2, une explosion des situations d'addiction. C'est tellement facile d'avoir recours à un petit alcool, à un petit apéro, qui est l'exemple même du faux ami. Et la troisième chose, c'est que nos files actives de patients déjà suivis en psychiatrie, les déprimés, les handicapés, les anxieux, les psychotiques, eux n'accèdent plus à leurs soins habituels et vont plus mal. Donc évidemment qu'il y a une urgence à les prendre en charge.
Il faut plus de moyens, professeur Lejoyeux.
Il faut bien sûr des moyens et les soignants ne vont pas vous dire autre chose. Il faut aussi une stratégie en psychiatrie, je crois comme dans les autres disciplines, avec un dépistage de ceux qui vont le plus mal, oui, c'est exactement comme le Covid, une prévention, une capacité qu'on a collectivement à augmenter notre résistance à ce stress, et puis évidemment une offre de soins, à la fois une offre de soins classique pour ceux qui allaient déjà mal, et une offre de soins probablement un peu originale, un peu innovante, avec probablement des psychothérapies un peu différentes pour ces nouveaux traumatisés psychiques du Covid.
Covid, est-ce qu'ils ont un profil particulier, un âge, je ne sais pas, ou ça peut être absolument tout le monde ?
Pour moi, je vois deux profils particuliers. Ce premier, comme je vous l'ai dit, c'est cette population d'adultes jeunes qui subit la double peine. Ils suivent leurs cours en distanciel, ils ont des difficultés financières, ils ont des difficultés familiales. Et puis une autre chose qui émerge maintenant, c'est cette notion de Covid long, c'est-à-dire que je ne veux pas dire un chiffre, mais aux environs de 30% des personnes infectées par le Covid qui ont eu peur, qui ont eu une déstabilisation à la fois de leur vie professionnelle et de leur vie psychique, ont des séquelles dépressives qu'on commence à voir et qu'on commence à reconnaître et qui sont multifactorielles. Ces deux populations-là sont des nouvelles victimes, et puis on reste extrêmement vigilant quant à une augmentation de prévalence des troubles psychiatriques classiques.
Le gouvernement, à l'image d'Olivier Véran, par exemple, refuse de parler de confinement. On n'empêche pas les Français de sortir, dit le ministre de la Santé. Ne pas dire confinement, dire plutôt nouvelles mesures, nouvelles restrictions, c'est de la sémantique, ça change quelque chose, ça, pour l'impact sur le moral, la santé mentale ?
Vous savez, quand les médecins établissent des causalités, ils se trompent très souvent. On a un faisceau de facteurs. Vous voyez bien que ce qui fait qu'on va bien ou pas bien, c'est évidemment ces questions-là. C'est aussi notre vie personnelle. C'est aussi notre relation au produit. Moi, je pense que, par exemple, un peu d'activité physique, c'est ce que j'écris aussi dans mes bouquins, quelques moments de déconnexion, de rêverie, quelques petits rendez-vous avec soi, qui sont des rendez-vous, ce que j'appelle de renaissance, de résilience, sont aussi des facteurs. Donc n'allons pas établir une sorte de causalité qui est vraiment fausse entre telle annonce et l'état mental collectif d'une population.
Vous l'avez déjà un petit peu abordé ce sujet, professeur Michel Lejoyeux, la prochaine question que je vais vous poser, mais quelle question vous pouvez donner si on vit mal la situation actuelle?
Je crois vraiment que nous sommes dans un moment où la santé doit être protégée. Santé physique, évidemment, par la protection vis-à-vis du virus, le traitement de ceux qui vont plus mal, et puis, vous savez, retrouver des temps pour soi, retrouver un petit temps pour soi, ça peut être un temps de lecture, ça peut être un temps de musique, ça peut être quelques activités agréables, chargées d'émotions positives, et surtout ne pas se tromper. Faire la différence entre la tristesse, la colère, tout cela, ce sont des émotions désagréables. Mais on est encore, c'est dans émotion, il y a motion. L'esprit bouge encore, on est encore en action. Et puis des cas de maladie, avec la perte d'envie, le ralentissement, la culpabilité, où là, il faut d'urgence faire appel à un système de soins.
Est-ce qu'on a besoin d'un cap aussi? Parce que je vois par exemple que le monsieur vaccin du gouvernement et le professeur Fischer évoquent la possibilité d'une vie normale à l'été, l'automne. Des horizons, c'est important ça?
Bien sûr que c'est important. Nous avons toujours besoin d'anticiper des choses positives. Et nous savons que de toute façon, cette épreuve-là ne durera pas non plus. Cette idée du caractère transitoire, même très long et épouvantablement long, de l'épreuve est importante. Pour le dire autrement, vous savez, je l'ai beaucoup écrit, l'optimisme, la capacité à projeter quelque chose de positif sur soi est un facteur de résistance, de résilience. Là, le problème, c'est qu'en plus de ce facteur d'anticipation, il faut tenir dans un présent qui s'étire et qui est de plus en plus traumatisant.
Professeur Lejoyeux, vous êtes chef du service psychiatrie et addictologie à l'hôpital Bichat. La Cour des comptes estime que le remboursement des psychologues libéraux par l'assurance maladie doit être généralisé dès que possible. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée, ça?
Alors, évidemment qu'on a besoin de soutien psychothérapeutique et évidemment que c'est une bonne idée. Il faut quand même un corollaire. Quand on rembourse, c'est qu'on sache exactement ce qui se fait. Quand on rembourse des consultations médicales, on a des objectifs, on a des praticiens formés avec des critères précis, on a un encadrement des pratiques. Donc, rembourser, oui. Rembourser en adaptant bien l'offre à la réponse me paraît la condition.
Merci beaucoup, professeur Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris, également professeur à l'université d'Hydro. Et vous signez notamment les 4 saisons de la bonne humeur, ouvrage paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous nous le dites sur France Info. Faisons attention à ne pas régir totalement la vie des personnes au plan sanitaire. Pour vous, ce qui s'exprime à travers ce carnaval non autorisé hier à Marseille, c'est un épuisement, une absence de visibilité sur l'avenir. On est, nous dites-vous, face à un stress tout à fait inédit. Il peut y avoir des réactions de colère, d'exaspération qui sont un indice de déni de la réalité. C'est votre avis, il est sur France Info.
France Info, 9h30 midi, Camille Revel. France Info.
On a beaucoup parlé du mal-être des étudiants dans cette crise sanitaire, des dégâts psychiques importants. Cette période, elle est particulièrement difficile pour les jeunes, mais aussi les plus jeunes, les enfants. On va en parler dans un instant avec la présidente de la Société française de pédiatrie. Mais on va d'abord écouter ce témoignage de Lucie, 19 ans. Elle est élève en terminale. Elle vit très difficilement l'isolement.
Ça m'arrive souvent le week-end, enfin, quand je suis toute seule chez moi, je me dis mais enfin, ça me saoule, enfin, genre, j'ai envie de sortir mais je peux pas. Il y a des petits moments de déprime parce qu'on se sent vachement seul, genre, enfin, je veux dire, même pour rencontrer des gens, des mecs et tout, on peut plus, c'est triste. Des fois le soir, quand on est chez soi, quand on est tout seul dans son lit, enfin, on se dit mais enfin, qu'est-ce que je fous là quoi.
Voilà ce témoignage de Lucie, 19 ans, donc élève en terminale, mais ses dégâts psychiques depuis un an touchent aussi les plus jeunes, les enfants, et le CHU de Nantes justement tire la sonnette d'alarme, notamment la chef de service de pédiatrie qui est avec nous, Christelle Gras-Le-Gouen. Vous accueillez beaucoup d'enfants en ce moment?
Effectivement, depuis plusieurs semaines maintenant, il y a une augmentation tout à fait spectaculaire du nombre des enfants qui consultent aux urgences ou qui sont hospitalisés pour des détresses et des inquiétudes autour de leur santé mentale.
Alors là, on parle bien d'enfants, hein, c'est-à-dire à partir de quel âge ?
Alors les plus jeunes qui sont admis aux urgences ont 8-9 ans, hein, et on accueille les enfants dans le service où je travaille jusqu'à 16 ans. Mais il semblerait que cette situation touche tous les âges, avec des symptômes et des présentations qui sont très différentes en fait.
Vous n'aviez jamais vu ça?
Alors c'est effectivement historique. Hein. On avait déjà, avant cette pandémie, une augmentation tous les ans des consultations pour des motifs pédopsychiatriques, hein, mais sans commune mesure avec ce qu'on observe aujourd'hui.
Alors de quoi souffre-t-il? De quelle pathologie exactement?
Alors les enfants qui arrivent sont anxieux pour beaucoup, stressés, ont des troubles du sommeil, ont des idées noires, sont tristes, et certains même ont fait des passages à l'acte et des tentatives de suicide.
Alors, quel est le profil, s'il y en a, hein, le profil de ces enfants? Est-ce que ce sont des enfants déjà en difficulté, que vous suivez régulièrement, ou alors un public peut-être que vous n'aviez jamais vu auparavant?
Alors, on se doute bien que dans ces situations de crise, ce sont toujours les plus fragiles et les plus vulnérables qui sont concernés en première ligne. Et sans surprise, on a vu des enfants qui faisaient l'objet déjà de difficultés familiales ou sociales et qui étaient parfois déjà suivis pour des soucis pédopsychiatriques. Mais pour autant, ce n'est pas du tout la totalité des enfants, et au moins la moitié d'entre eux étaient des enfants sans histoire pour lesquels il n'y avait pas eu d'alerte jusqu'alors.
Et quels sont les signes justement qui doivent peut-être alerter les parents qui nous écoutent pour savoir si leur enfant justement a un problème et des difficultés avec cette crise sanitaire?
Alors il ne faut pas inquiéter les parents, c'est pas dans un ciel serein où tout d'un coup il y a un geste dramatique, c'est pas du tout ça. Ce sont des enfants qui vont mal, qui l'expriment, qui présentent des symptômes qui sont tout à fait bruyants et pour lesquels les parents vont être alertés. Ce sont des enfants qui mangent moins bien, qui dorment moins bien, qui ont des crises de colère ou au contraire des crises de pleurs. Donc ce sont des choses qui sont spectaculaires. Hein. Et bien évidemment, les parents ne peuvent pas passer à côté et sauront à les consulter.
Comment on résout ces problèmes? Ils restent longtemps à l'hôpital. Comment vous travaillez avec eux? Comment les remettre en forme?
Alors il y a bien évidemment autant de façons de faire que d'histoires personnelles. Et il n'y a pas de grandes règles. Ce qu'il faut, c'est pouvoir les rassurer, pouvoir, s'il faut, les héberger quelques jours à l'hôpital dans un endroit rassurant où on pourra faire le point avec eux, avec leur famille, et puis surtout faire le lien avec les médecins traitants et puis toute la médecine ambulatoire susceptible de les aider à supporter le stress environnant et puis parfois des éléments déclenchants qui leur sont personnels.
Est-ce que l'absence d'école lors du premier confinement a été aussi peut-être une des raisons de cette affluence au sein de votre service?
Alors c'est difficile à dire. Ce qu'on peut par contre affirmer, c'est que la fermeture des écoles pendant le premier confinement a été l'occasion de constater très rapidement les effets tout à fait délétères de l'arrêt de la collectivité et de l'absence de vie sociale pour les enfants. On a vu une flambée de violences intrafamiliales, les appels au 119 ont explosé, et on a vu des effets sur les inégalités sociales tout à fait spectaculaires en termes d'apprentissage. Donc les effets délétères de la fermeture d'école ont été bien établis. Est-ce que c'est ça qui parle aujourd'hui? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, on se félicite que ces écoles aient pu être ouvertes par la suite pour limiter autant que faire se peut les dégâts de cette période déjà très stressante.
Pour vous, il y a plus de bénéfices à laisser les écoles ouvertes que fermées?
Ah oui, tout à fait. On a aujourd'hui accumulé les données qui montrent que les enfants sont très peu en cause dans la contamination du virus. La plupart des contaminations, elle a lieu en intrafamilial et l'école n'est qu'exceptionnellement en cause dans des clusters ou des contaminations. Par contre, les bénéfices sont évidents et donc la balance, là aussi, est évidente.
D'accord, parce que ça fait débat quand même.
Je sais que ça fait débat avec des critères qui sont parfois surprenants, pour lesquels la balance bénéfice-risque n'est pas la même pour tout le monde. Et je pense que tant qu'on ne prendra pas en compte les bénéfices de la scolarité, eh bien, on fera fausse piste, puisque effectivement, la solution à la pandémie, elle n'est pas à l'école, mais elle est bien en dehors de l'école et en particulier dans les campagnes de vaccination.
Merci Christelle Gras-Le-Gouen. Je rappelle que vous êtes chef de service de pédiatrie au CHU de Nantes, également présidente de la Société française de pédiatrie.